Troisième étage, porte à droite, en sortant de l'ascenseur, micro en main, casque d'écoute sur les oreilles, je sonne, et miracle, Vincent De Dienne est là.
Bonjour, ça va Rebecca?
Ça va?
Oui.
Et vous?
Ouais. On s'embrasse?
Oui.
T'es pas allergique au sable?
Non, ça va. Pourquoi vous rigolez?
Non, je sais pas, ça fait... c'est marrant d'avoir un mec à Manzoni.
Chez soi.
C'est quelque chose que je conseille à tout le monde.
Il y a 3 ans, Vincent De Dienne commençait à jouer un soir de gala. Un seul en scène qui lui permit de remporter le Molière du meilleur spectacle d'humour en 2022. Aujourd'hui, Vincent De Dienne publie un disque intitulé « Un lendemain soir de gala ». 14 chansons écrites par 14 autrices et auteurs comme Albin de la Simone, Jeanne Chéral ou Ben Mazué. 14 chansons comme le prolongement musical, mélancolique et autobiographique de son spectacle. Vincent De Dienne est ce comédien qui peut être à la fois présentateur de La Flamme, émission parodique de télé-réalité inventée par Jonathan Cohen, membre d'une troupe pour interpréter un vaudeville de la biche, écrit au milieu du 19e siècle, et aussi adaptateur et interprète du journal intime du dramaturge Jean-Luc Lagarce, mort du sida en 1995. Cet épisode de Totémic avec tous ces Vincent De Dienne commence à table, dans son salon cuisine, entre un flipper et un distributeur de bonbons. L'avantage d'aller chez les gens plutôt que de les interviewer en studio, c'est qu'ils ont toujours prévu quelque chose à manger et à boire.
Totémic, Rebecca Manzoni, sur France Inter.
Alors ça, c'est des petits gâteaux de Minorque.
Ok.
C'est des sablés. Hein. Voilà, bon. Et ça, c'est du thym.
On est au thym, donc.
Ouais. C'est rock'n'roll. Hein.
Vous avez eu envie, vous, d'être rock'n'roll? Être chanteur, c'est un peu être rock'n'roll.
Ouais, c'est un peu ma tentative de... de rocker. C'est ma tentative d'avoir une vie complètement dissolue qui va avec, sauf que, ouais, comme ça commence.
Avec
petit biscuit et tisane de thym.
Non, mais en vrai, vous avez rêvé d'une vie dissolue, même. Parfois, on peut rêver d'une vie dissolue tout en sachant qu'on n'est pas fait pour. Hein.
Ouais, bah moi, c'est un peu le cas. En fait, si j'avais 2 vies, j'en ferais une complètement déglinguée, je pense. J'ai une petite fascination un peu morbide, quand même, mais pour les gens qui se sont... qui ont tout cramé par les deux bouts.
En tout cas, il y a une fascination et pour les chanteurs et pour la chanson.
Oh bah ça, c'est même pas une fascination, c'est vraiment un goût. Et la chanson française, particulièrement. Ma façon de m'exprimer dans mon métier, c'est l'humour et le théâtre, mais ma façon de vibrer, de m'exprimer dans la vie, c'est la chanson. J'en écoute tout le temps, j'en chante tout le temps.
Vous en rêviez, chanteur, avant même d'être comédien?
Ça va être chiant, ça. La machine à laver. Là.
C'est la deuxième fois que je suis chez quelqu'un où la machine à laver est en phase d'essorage.
Ah ouais, et ça, c'est là où ça fait le plus de bruit. Ah, attends, comment on fait? Est-ce qu'on peut l'arrêter?
La machine à laver?
Ouais.
Ou l'enregistrement?
Non, l'essorage.
Ça va passer dans une minute, non?
Je sais pas, ça me dure
pas. Je voudrais pas être responsable de la panne de la machine à laver. Ça dure pas longtemps.
Combien de temps ça dure?
C'est ça.
Bah, sinon, on fait un petit crochet par la chambre. Ouais, franchement, voilà. Fin de carrière.
Chiche.
La preuve. Heureusement que vous avez du chiche. Comme ça, il y a la preuve de votre consentement.
Je bois du thym en attendant.
Le temps nous étant compté dans cette émission comme dans la vie, je me permets d'accélérer et l'essorage et la bande.
Sinon, cas de beauté, parce que de toute façon, comme ça, sinon c'est pas très radiophonique de radiophonique. Et là, je sors juste de ma petite paralysie faciale d'anesthésie. J'ai un petit peu peur qu'on ne puisse pas faire l'interview.
Je crois qu'on
est bon.
Oui, moi je sais, on en était.
Ah.
Non, chanteur, non, j'en rêvais pas. Mais en fait, j'adore chanter une chanson. De temps en temps. Mais vraiment, chanteur à temps plein, je pourrais pas.
Pourquoi?
Parce que c'est trop premier degré, chanteur. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'intermédiaire entre soi et les gens. Il y a tout de suite, c'est tout de suite à vif. Quoi. C'est tout de suite quand on va voir Julien Clerc ou Vincent Delerme ou Dev, c'est eux quoi, qui chantent. Acteur, tu es quand même un peu planqué.
Donc,
tu peux jouer avec des secondes, des troisièmes, des quatrièmes, des sixièmes, des huitièmes degrés. Surtout quand tu es humoriste.
Et donc, en étant chanteur, c'est une forme de mise à nu, alors ?
Là, dans le disque, oui. Et je me suis fait tirer le portrait par des gens différents. Donc oui, c'est sûr. Après, en concert, comme je vais faire un petit peu des concerts, il va y avoir les chansons, mais il va y avoir des textes rigolos. Et je pourrais pas dire bonsoir au début, chanter des chansons et dire merci d'avoir été là et partir. Je suis obligé de faire rigoler les gens et de me mettre un peu... ouais, voilà, vous avez compris, quoi.
Mais c'est marrant, parce que c'est comme si vous assumiez pas totalement.
Si, franchement, quand je vais les chanter, je vais assumer à fond les ballons. Donc ça, j'ai aucun problème à les chanter vraiment et à assumer d'être chanteur, mais c'est pas une reconversion professionnelle, quoi. Je suis pas en train de dire, c'est mon ciao pantin à moi, maintenant je vais être chanteur, j'en ai marre qu'on rigole, maintenant je veux qu'on me prenne au sérieux, pas du tout. Non, non.
En tout cas, le fil rouge, même s'il y a plein d'auteurs, compositeurs différents, de Vincent Delerme à Albin de la Simone, en passant par Florent Marchais, Jeanne Chéral, le fil rouge, quand même, c'est le temps qui passe.
Ouais. Et surtout de perdre à un moment donné, et de plus en plus, le sentiment d'invincibilité qu'on avait quand on était adolescent, qui était quand même bien agréable.
Vous avez eu ce sentiment, vous ?
Ouais, moi je me rappelle d'un été particulièrement, c'était vraiment ado, un été à Marseille, avec des copains. Donc c'est l'été, c'était au moment de la sortie de l'album de Camille, Le Fil. On écoutait tout Le Fil, tout Camille.
Elle te fait, tu bois de l'eau et tu es saoule. Là où tu te noies, tu as beau avoir pied, tu coules. Au port.
On sautait des rochers, on fumait, c'était la première fois que je fumais des pétards. C'était les premières sensations de fête, où tu bois un petit peu, t'oses enfin avouer un petit peu tes sentiments à tes copains ou à des gens, tu te roules un petit peu des pelles et tu dis oh là là, qu'est-ce qu'on a fait. Ce sentiment d'adolescence, je me souviens très bien m'être dit à ce moment-là, tout ça sur la bande originale de Camille, la vie est divine. Si c'est ça, on est tranquille.
Grève de bonheur, change de godasse, croule sous les fleurs, chante.
Et puis après, en fait, tu t'aperçois que non, ça ne dure pas. Quelques poignées d'été après, tu commences à te mouiller la nuque beaucoup plus avant de sauter des rochers.
Sachant que l'affiche d'un soir de gala, c'est vous sur un plongeoir. C'est j'y vais ou j'y vais pas ?
J'y vais ou j'y vais pas, ouais. Ben, en fait, à partir du moment où tu te poses la question, t'es foutu, ça y est.
Et quand il a été question de passer le concours de l'école de théâtre à Saint-Étienne, j'imagine que là, vous ne vous posiez pas du tout la question.
Pas du tout la question, mais d'ailleurs, j'ai passé un seul concours, c'était celui-là, l'école de la Comédie Saint-Étienne, et je pense vraiment que j'aurais été pris partout à ce moment-là. Je ne me posais aucune question, justement. Donc je sais que j'étais, à ce moment-là, ça n'a pas duré longtemps, mais j'étais irrésistible. C'était sûr que j'aurais pu être pris partout. C'est horrible de dire ça, mais je le dis d'autant plus volontiers que ça s'est arrêté très vite après. Après, j'ai commencé à me poser des questions, à être plus inquiet, moins libre, plus calculateur, plus ambitieux. Et c'était foutu. J'étais déjà plus ce jeune homme à qui on pouvait tout promettre.
Pourquoi plus ambitieux, ce serait être moins irrésistible ? Parce que vous dites que j'étais plus calculateur, plus ambitieux.
Ben oui, parce qu'après, tu commences à t'intéresser à toi, en fait. Les écoles de théâtre, je me rappelle que moi, quand je suis arrivé, j'étais le plus jeune dans ma promo, et tout le monde disait, alors moi, mon théâtre, c'est... Tout le monde savait quel acteur il était, qu'est-ce qu'il voulait faire, quelle était son esthétique, quel genre de théâtre, quel metteur en scène l'intéressait. Moi, je savais rien. Moi, j'étais prêt à tout. Et en fait, après, les écoles de théâtre, et puis après ce métier, le cinéma, les agents, tout ne fait que te transformer en ton sujet d'intérêt privilégié. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, tu deviens plus...
Et plus inquiet.
Plus égocentrique, plus égoïste, plus narcissique. Voilà.
Ça veut dire qu'à un moment, par exemple, vous avez eu la grosse tête ?
Non, moi non. Je le dis, mais en plus j'ai vérifié auprès de mon entourage. Non, je ne l'ai pas eu. Il y a plein de gens qui l'ont pas, hein, la grosse tête. Il y a plein de gens qui l'ont, il y a plein de gens qui l'ont pas. Et souvent, ça a un rapport avec l'éducation quand même. Il y a des gens qui ont été bien élevés et d'autres un tout petit peu moins bien élevés. Il y a des gens, en fait, qui se souviennent toujours de ce que leur diraient leurs parents. au moment où ils disent « Non mais attendez, vous savez qui je suis ?» Ils ont la mère qui dit « Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire là ?» Et du coup, ils ne le disent pas, parce qu'ils savent qu'ils vont...
C'est vous ça ou pas ?
Ah oui, oui. Ouais.
Il y a une chanson sur les parents, dans le disque. Une chanson écrite par Pierre Lapointe.
Oui, qui est vraiment la plus glauque du disque. Mais que j'adore, mais qui est vraiment tellement triste.
Mes souvenirs fléchissent à un moment précis, ce jour où comme par surprise vous avez vieilli. Sur vos visages soudain j'ai entendu vos rides chuchoter qu'après vous tout me semblerait vide. Mes souvenirs fléchissent à un moment précis où j'ai vu le début de la fin de vos vies. Comme une triste évidence qui nous frappe au matin, que même le plus beau jour court et meurt à la fin.
Bah en tout cas, il a tiré, oui, à un moment, là, pour le coup, hyper autobiographique.
Oui, mais en plus, j'ai halluciné parce que, à un moment donné, dans la chanson, il dit quand les parents mourront, vous mourrez.
Puis il y aura la mort. Orphelin, je me retrouverai une fois encore.
Orphelin, je me retrouverai une fois encore. Et je me suis dit, oh purée, mais ça, c'est fou, ça veut dire qu'il est au courant. Enfin, je sais pas pourquoi il a écrit ça, je lui demande, mais c'est comme s'il était au courant. Faut avoir été abandonné, quoi, pour. Sinon, ça veut rien dire, la phrase. C'est qu'il devait savoir que je l'avais déjà été, quoi. Et je savais pas qu'il savait.
Mes souvenirs finissent à un moment précis, celui où j'ai décidé de vous dire merci. Sachez qu'à mon tour pour vous, je serai toujours là, jusqu'à votre départ, pour ce monde loin là-bas.
Vous avez aimé, parce que chanter, c'est une chose. Mais chanter en studio.
Au début, t'as un petit peu les jetons et tout, mais en fait, très vite, tu comprends qu'il va falloir la chanter 14 fois, la chanson, pour... en fait, tu la chantes 6 fois, et au bout de 6 fois, les mecs, ils te disent « Bon, bah maintenant, j'appuie sur record. » En fait, tu sais que tu comprends que le travail commence que maintenant, quoi. Donc oui, c'est assez cool, parce que ça devient vraiment du travail. C'est là où, en fait, ça déromantise un peu le côté chanteur, nana, ça devient vraiment du travail et concret, et du comme au théâtre, les répétitions, quoi. Tu répètes, t'améliores, tu changes un tout petit détail dans une phrase, une façon de respirer, tu déplaces tes respirations, nana, tu te dis, ah, tiens, peut-être faut que je respire plutôt là. Donc ça devient très technique, quoi, c'est plus du tout sexy. Ouais. Ah bah non, c'est reparti.
Vous avez fait un pré-lavage ou pas ?
Ouais. On pourrait dire ça, que je suis quelqu'un de propre. C'est la preuve. Et si on va dans la chambre ?
Comme vous voulez.
Dans la chambre d'amis. C'est,
ok.
C'est,
ça reste... Vous voulez que j'enlève les chaussures ?
Non, non, non.
Cette chanson est écrite et composée pour Vincent de Dienne par Albin de la Simone. Elle s'intitule « Il y en a encore ».
Il reste des dangers, vague à l'âme de fond, un élan pour plonger de falaises et de ponts. En nageur intrépide, je veux de bon matin me jeter dans le vide du verre à moitié plein. Fait le tour, il y en a en cours. Il me reste un travail de fil à dénuder, à dénouer la maille qui me tient amarrée. Il reste des épices, des parfums, des couleurs, des failles et des abysses qui encore me font peur. Fait le tour, il y en a en cours, il y en a encore, il y en a encore, des points de vie et d'amour, il y en a toujours. Des étages de corps à conquérir, le clocher d'un village où je veux revenir, de baisers sous la lune, de peau à caresser, il reste une fortune à dilapider. Il y en a encore, il y en a encore. pas fait le tour. Il y en a en cours. Le dancing a fermé, la musique arrêtée. La boule à facettes a cessé de tourner sur la piste déserte. Pieds nus sur le parquet, dans la lumière verte, j'ai envie de danser. Le tour, il y en a en cours, il y en a encore, il y en a encore, des points de vie et d'amour, il y en a toujours.
Pour celles et ceux qui ont raté le début, Vincent Dedienne, comédien, humoriste et interprète de chansons, est l'invité de Totemic ce matin. Nous avons commencé cette conversation dans le salon cuisine. Comme la machine à laver faisait trop de bruit, nous nous sommes réfugiés dans la chambre d'amis. On s'est assis au bord du lit et on n'a pas regardé un film, on en a écouté. Un extrait du Goût des autres d'Agnès Jaoui. Jean-Pierre Bacri y est chef d'entreprise, amoureux d'une comédienne de théâtre, jouée par Anne Alvaro. Et j'ai choisi la scène qui suit.
Moi, je ne vais pas vous déranger longtemps, il faut que je vous parle de quelque chose qui me tracasse. Je me sens un peu... Je me sens responsable. Enfin, voilà. Je sais que vous comptez mettre une grosse somme d'argent dans une peinture, une fresque pour l'entrée de votre usine.
À un moment donné, elle va dire...
Ça ne m'engage pas, évidemment, mais comme ce sont des gens que je vous ai présentés, je me sens mal à l'aise. Je me sens responsable. Enfin, pour être clair, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous faire, disons, abuser. J'en ai parlé à Antoine. Et bien qu'ils me disent le contraire, j'ai franchement l'impression que... Il est en train de profiter de vos sentiments, de votre sympathie pour moi, je sais pas, mais...
Attendez, je comprends pas, là. Il profite de mes sentiments pour vous, c'est-à-dire... C'est j'aime ses peintures...
Ce que j'achète...
C'est tout, je vois pas où est le problème.
Ah bon, d'accord.
C'est pour ça que vous êtes venu. Et vous pensiez que je les achetais pourquoi ?
Pour vous plaire.
Vous pensiez que c'était pour vous plaire ? C'est ça ? Pour me faire bien voir ?
Je sais pas, peut-être.
Vous avez pas imaginé une minute que ça pouvait être...
Par goût ?
Par goût. C'est l'opinion que vous avez de moi. Vous inquiétez pas, c'est par goût. Et même si ça me paraît incroyable, hein, pas pour vous plaire. Vous plaire, vous m'avez déjà expliqué que c'était même pas la peine d'y penser, j'ai très bien compris. C'est le genre de choses que même moi j'arrive à comprendre.
Ouais. Vous connaissez le film par cœur.
Ah oui, mais la scène, là, j'y pense tout le temps à cette scène.
La quantité de... De fébrilité, de souffle qui m'aide dans. C'est pourquoi vous pensiez que c'était pour vous plaire. Voilà, c'est trop, c'est incroyable. Mais il est très amoureux, quoi. Il est amoureux, il. Puis il souffre. C'est un personnage qui souffre, qui est humilié.
Mais parce que là, vous parliez de la nature des répliques de Bacri. Mais dans le comédien, dans sa façon de jouer, qu'est-ce qui vous intéresse tant ?
Ben, y a un éclectique. Dans lequel il rentre un peu plus dans cette cuisine-là, où il dit que... Je me rappelle où il fait une espèce de liste de courses, d'ailleurs. Il dit que souvent, les acteurs veulent tellement montrer qu'ils jouent bien, qu'ils sont souples, qu'ils sont malins, qu'ils font trop de variations, trop d'effets, trop de... Et qu'en fait, il faut jouer le moins possible. Et ça, d'ailleurs, c'est, je trouve, ce qu'il fait. Il en fait très peu, quoi, quand même. Il est beaucoup dans la réserve, dans la retenue, dans l'économie et tout ça. Et dans l'éclectique, là, il faudrait retrouver l'archive parce qu'elle est délicieuse. Il donne une liste de courses et il dit, on fait pas... Alors, je suis allé au marché et j'ai acheté des tomates, mais aussi des poivrons. Et aussi... Il dit, non, j'ai acheté des tomates, des poivrons, des trucs, machin. Bon, il le dit, vous écouterez. Il le fait mieux que moi.
Ilinka Negulesco a retrouvé cette archive. C'était dans l'émission Éclectique de février 2011. Je demandais à Jean-Pierre Bacri comment il avait appris son métier.
On apprend sur le tas. Moi, j'ai appris avec des mecs après...
Vous aviez commencé à dire un mot, un nom, vous n'êtes pas allé au bout ?
Oui, avec Jean-Pierre Bouvier. Il avait une façon d'indiquer aux acteurs la façon de jouer qui était parfaite, que je n'ai jamais abandonné.
C'est-à-dire ?
Depuis. Oh ben, c'est un truc tout simple, mais sur la musicalité, quoi, sur les intonations, c'est-à-dire de ne pas changer d'intonation tant qu'on n'a pas changé d'idée. enregistrer une conversation entre des gens. Mm-hmm. Tant qu'ils ne changent pas d'idée, ils sont sur la même note. Vous faites une énumération, vous ne dites pas je vais acheter des carottes, des choux-fleurs, des pommes de terre. Vous ne dites pas ça, vous avez des carottes, des choux-fleurs, des pommes de terre. Il y avait des yaourts, j'en ai pris. Vous voyez, si d'un coup l'idée change, et figure-toi qu'à ce moment-là, je rencontre truc, hop, ça y est, la musique change.
C'est super intéressant à mettre en œuvre.
Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est le meilleur acteur du monde.
Voilà, ça. C'est pas ce que j'ai dit. Je voulais savoir pourquoi pour vous c'était le meilleur acteur du monde.
Mais parce qu'il est. Il ne fait pas de style. Ah, en ce moment, je suis un petit peu énervé par des choses que je vois au théâtre, surtout des acteurs qui veulent montrer qu'ils sont malins et qu'ils sont. C'est ce que je disais, qu'ils sont un peu souples et tout ça, et qui font un petit peu. Qui stylisent un petit peu, qui font du style, parce que ça leur donne une personnalité. Et en fait. C'est beaucoup plus difficile d'être sincère. En fait, entendre ce qu'on nous dit et répondre, c'est beaucoup plus difficile que de faire sonner la réplique d'une certaine manière, avec un petit style, une petite mélodie qui nous est propre, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et Bacri, en fait, Bacri, c'est l'anti-style, quoi.
Alors qu'il a une musique identifiable entre mille.
Il a une voix identifiable.
Et puis un débit.
Et un débit,
un ton.
Oui. Oui, mais c'est le sien, quoi. Voilà, c'est pareil. De la même manière, il répondait toujours, c'est ma tronche. Qu'est-ce que vous voulez que ma tronche au repos, elle fait la gueule. C'est comme ça. Bacri, il joue jamais le bruit que ça fait, quoi. Il joue le sens.
Mais quand on fait un spectacle d'humour, on est forcément obligé de styliser. Parce que, par exemple, quand on interprète différents personnages, qu'il s'agisse d'une grande bourgeoise, d'une gamine, on est obligé de mettre du style à ce moment-là, non?
On peut mettre une voix, on peut mettre un rythme, on peut mettre une mélodie différente, on peut ralentir ou accélérer, mais en fait, ce qui est compliqué, et les répétitions, elles servent à ça, c'est qu'il faut quand même être sincère, parce que sinon, tu joues une caricature, tu joues l'idée qu'on se fait de la bourgeoisie, ou l'idée qu'on se fait de l'enfance, ou l'idée, mais tu joues pas cet enfant-là précisément, qui est pas la même que sa copine de classe, ou tout ça.
Alors, parlons d'exemple du bourgeois, de la bourgeoise. Pour la trouver, elle, comment ça s'est passé?
Alors, elle, c'est un peu particulier parce que c'est quand même on appellerait ça un classique dans la chanson.
Dans le spectacle d'humour, la grande bourgeoise.
Dans le spectacle d'humour, la bourgeoise.
Le Mercier.
Voilà, Sylvie Joly. Il y en a plein qui l'ont joué. C'est un standard, en fait. Voilà.
C'est un tube.
C'est un tube. Donc moi, je me disais, je veux le faire aussi. Je veux faire une reprise de ce personnage de bourgeoise. Donc, une fois qu'on l'a trouvé, après, il faut la mettre quelque part. Nous, on l'a mis au Cap Ferret. Il faut lui trouver une interlocutrice. On s'est dit que ça allait être sa femme de ménage. Au moment où on l'a écrit, il y avait le début, c'était un peu les premières personnes qui osaient dire, ça s'est appelé les boubours, en réaction aux bobos. C'était les bourgeois bourrins, qui assumaient d'aimer bouffer de la viande, qui assumaient, merde, quand même, on a le droit de... Il faut donner de la viande aux enfants, comme ça, après on va en faire des yels, ça. C'était le début de ça. Donc je me suis dit, c'est peut-être ça, ce personnage. En fait, pour éviter que ça soit trop caricatural ou trop daté ou tout machin, il faut quand même l'inscrire dans une sorte de réalité un peu contemporaine quand même. Un truc qui est un peu agité dans la société au jour J. Et donc, ce truc-là nous avait paru un peu sensé, quoi. Voilà.
On écoute le tube que vous avez choisi?
Ouais.
Enfin non, c'est pas vraiment un tube.
Ah bon?
C'est-à-dire que... Donc, c'est une interprète qui s'appelle Terry Moïse.
Ouais. Qu'il faut... Ouais, vous connaissiez ou pas?
Moi je connaissais les poèmes de Michel.
Ouais, ouais.
Les poèmes de Michel, les enfants des ailes.
Il y a deux tubes, il y a les poèmes de Michel et Je serai là. Mais Je serai là, ça a moins marché.
J'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop. Je serai là, toujours pour toi, que tous tes amours soient sûrs.
Feu Terry Moïse. Elle nous a quittés, je sais pas, il y a longtemps déjà, en 2013, je crois. Donc c'est une chanson sur la maternité, parce qu'elle dit « J'ai découvert qui je suis, tout a changé le jour où je t'ai donné la vie ». Et en fait, elle n'a pas eu d'enfant. Moi, j'avais l'idée que pour écrire une chanson ou pour écrire de façon générale, il faut avoir vécu les choses.
Au même titre qu'on peut jouer des tas de choses qu'on n'a jamais vécues, finalement.
Ben ouais. Mais ça, cette idée, elle devient un peu... On a une sorte de retour quand même au... Comment on appelle ça, l'acteur studio, à Stanislavski, au fait de... Mais non, en fait, c'est quand même de l'invention et de la joie, jouer.
Ah oui, quand vous dites acteur studio Stanislavski, c'est-à-dire ce qu'on puise dans, son ressenti.
Oui.
Ah, je vous sens agacée par
ça. Ah oui, ça m'a... Oui, oui. Mais non, mais c'est vrai, il y a plein de gens qui disent... Il y a plein de gens qui sont un peu... je pensais que c'était un peu ringard, le romantisme de ce métier, le torturé, l'acteur maudit, le poète maudit, le fait de souffrir soi-même pour jouer, machin. Pour moi, c'est vraiment l'inverse, quoi. C'est vraiment que de la joie, J'ai pas besoin de sentir que c'est difficile pour l'acteur que je vois.
Et vous, c'est pas ce que vous ressentez quand vous le faites ?
Ah non, ah non. Le jour où je commence à souffrir, moi, j'arrête, je pense. Non, j'ai pas mazo, hein.
Pourquoi vous avez choisi ce titre ? Parmi toutes les chansons que vous écoutez de la chanson française.
Oui, déjà, fallait choisir un tube. Alors là, c'est peut-être pas un méga tube, mais quand même, c'est un petit peu un tube. Et moi, j'en écoute pas tant que ça, hein, des tubes. Les tubes, c'est quoi ? Donnez-moi un exemple de tube. Moi, j'écoute que les faces B, moi.
Mais il y a des tubes qu'on écoute malgré soi. Il y en a plein, des tubes. Dur, hein. Dans la chanson française.
C'est dur, les questions que vous posez.
Je sais pas, alors on danse. Le dernier jour du disco. Si on remonte dans le temps, Marcia Baila.
Ouais, Marcia Baila, j'avais pensé. Ouais.
Ah oui ?
Ouais. Okay. Mais parce que je voulais que ça corresponde, un peu à un moment. Et en fait, ça, quand les rares fois où je tombe dessus. À la radio ou en shuffle sur mon téléphone, dès les premières notes, j'ai la sensation de quand je l'écoutais. C'est-à-dire il y a longtemps, en 2013, donc c'était vraiment enfant. Et j'ai la sensation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était l'inconscience. Voilà.
Alors que c'est une chanson qui est assez mélancolique, quand même.
Ouais, très mélancolique, ouais.
Mais vous, ça vous rappelle l'inconscience ?
Ben ouais, parce que la mélancolie, c'est pas si triste que ça, pour moi. Je sais pas comment ça se fait. Pour moi, c'est quand tout va bien. C'est bizarre. Mais ouais, en fait, la mélancolie, c'est un état un peu permanent chez moi, où on sait, on est très triste de savoir que la vie va s'arrêter, et du coup, on sait qu'il faut en profiter. Non ? Ça serait ça, moi.
Il y a des moments où vous n'y pensez pas que la vie va s'arrêter ?
À la mort ? Mais jamais, je ne comprends pas les gens qui ne pensent pas à la mort en permanence. Quand je suis sur scène,
Quand vous êtes sur scène, vous n'y pensez pas ?
Non, bah là, non, sinon là, je commence à... Là, non, là, sinon je prends mon pouls, je tâte mon pouls et je vais aux urgences. Non, sur scène, ce n'est pas possible de penser à la mort. Non, sur scène, je pense à ce que je dois faire et je pense au fait qu'il faut qu'eux oublient absolument qu'ils vont mourir. Mais sinon, non, moi j'y pense tout le temps, à la mienne, encore plus à la mort de ceux que j'aime et tout, non ? Il y a des gens, vous pensez, il y a des gens qui peuvent passer une journée sans y penser ? Qu'on me les présente. Non mais ça m'épate.
Et dire qu'on parle de tout ça quand même, face à une pile de jeux de société,
ouais.
Où je lis « Perds pas la boule ».
Ouais, ça c'est un vieux, ça il est vieux.
Bah oui,
ouais.
Perds pas la boule.
Ah bon ? Vous êtes en impro total là.
Mais non, pas du tout.
C'était ça ?
Mais
le
oui,
jingle ? Ah
mais
bon ?
Bien sûr.
Ah, mais genre, il est connu.
Bah oui.
Perds pas la boule. Perds pas la boule. Un jeu follement gay, un jeu gay-play.
Ouais. Faut dire que c'est le plus. Ça va pas être flatteur pour vous, mais c'est vraiment le plus vieux de ma collection.
Eh bah ouais, mais j'assume. Ah oui, donc c'est votre collection là.
Mais là, il y en a qu'un petit bout là, ouais. Enfin, collection, non. Utilisation de jeux de société. Oui, la roue de la fortune, Christophe de Chavannes. Ça, j'y ai pas joué. Et il y a eu Terry Moïse et Christophe de Chavannes sur France Inter ce matin.
Ajoutons Tyler, the Creator. Sugar on my tongue.
Like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come, come. It's all I want to. Tell
16, is it your birthday? I got a brush, give me your wallet, I'll fit. Don't need no air, I stay down there till I fit. Girl, I'm dead. Tell your mama, tell them what. Tell your mama, tell your daddy, tell them what. Tell your daddy, tell your mama, tell your mama, tell your daddy, tell your daddy. Like sugar on my.
Il est comédien, humoriste, et il a choisi d'écouter la voix d'un collègue. Pour Totemic ce matin, Vincent De Dienne a voulu entendre François Rollin. François Rollin joue le père de Juliette Armanet dans le film « Partir un jour ». Au milieu des années 80, il a inventé le personnage du professeur Rollin. Un gars érudit au point d'être capable de répondre à des questions aussi essentielles que « l'endive, pour ou contre ?». Et dans ses réponses, le professeur Rollin réhabilitait des mots comme « pétaudière »,« fuligineux » ou « méliflu ». Extrait d'une interview de François Rollin sur France Inter en 2012.
Vous pourrez trouver des salles de spectacle à Paris en ce moment où des gens arrivent en disant « je vais vous faire rire » et où en effet on entend les gens rire dans la salle. Mais pour moi, ce n'est pas tout à fait le même rire. C'est un rire qui exprime juste une connivence, mais c'est pas le rire libérateur, émancipateur, et me font rire des gens qui n'ont pas eu l'intention, ou en tout cas n'ont pas manifesté l'intention de me faire rire. D'où une des déclinaisons de la fameuse phrase, un peu bizarrement attribuée à des proches, quelqu'un, c'est peut-être Morel qui l'a décalé en disant on peut rire de tout, mais on n'est pas obligé.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très drôles et très émouvants comme François Rollin. Parce qu'en plus, François, il n'a aucune, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans l'archive, là, il n'a aucune intention, aucune intentionnalité. Il ne veut pas ni être marrant, ni être émouvant, mais il l'est malgré lui, les deux en même temps.
Comment vous l'avez rencontré, François Rollin ?
Un jour, j'étais en train d'écrire le spectacle, j'avais fini une espèce de version illisible et indigeste de 70 pages.
De votre premier spectacle ?
Ouais. Et je vais travailler à Lyon, j'habitais Paris, je vais travailler à Lyon. Je devais aller jouer le spectacle sur Hervé Guibert, que j'avais fait et que j'adorais. Et il est gare de Lyon, je le vois, en train de fumer une clope devant la gare de Lyon. Et je me dis, bon, alors là, franchement, si t'y vas pas, t'es une poule mouillée, quoi. Tu vas t'en vouloir toute ta vie, il faut absolument que t'ailles lui parler. Donc je vais lui parler et je lui dis, est-ce que ça vous dérangerait de lire quelque chose que j'ai écrit ? Et en fait, ce que je ne savais pas, c'était que François Rollin est très timide, il a fait, non, comme ça. Et je me suis dit, oh merde, oh putain, je me prends une veste énorme. Et en fait, il voulait dire, non, ça ne me dérangerait pas. Mais ça, j'ai failli pas le comprendre, parce que j'ai failli dire, non, mais pardon, je ne vous adresserai plus jamais la parole, et prendre mes jambes à mon cou. Et en fait, je lui ai donné mon mail, nanana, il a lu, il m'a appelé, et puis c'est lui qui a tout déclenché dans ma vie, parce que c'est lui qui m'a présenté Laurent Ruquier, qui a produit et qui produit toujours mes spectacles.
Il a mis en scène aussi le premier spectacle.
Il a commis en scène avec Juliette Chéniaud. Et François m'avait aidé à l'écriture aussi. On avait une version du texte qui était bien, qu'il avait trouvé bien, mais il disait « c'est trop normal ». Pour tenir une heure et demie seul en scène et qu'on accepte d'écouter un mec, si au bout d'une heure on s'aperçoit que le mec est normal, on va trouver que c'est interchangeable, quoi. Il faut que ça soit quand même un peu intergalactique, quelqu'un seul en scène.
Ça, c'est une idée que vous avez gardée ?
Eh bien, je me suis dit, oh là là, ouais, je vois ce qu'il veut dire. Et maintenant, souvent, quand on écrit, on y pense, on se dit, attends, on est peut-être un peu trop documentaire. Faut peut-être que ça soit moins documentaire que ça, notre truc.
Tout à l'heure, vous avez défini votre métier par... vous avez parlé de chansons, d'humour et de théâtre. Vous n'avez pas parlé de cinéma.
Non, c'est vrai, parce que ça n'a jamais été ni un rêve ni un projet. Pourtant, j'ai été très cinéphile et tout, je regarde des films et tout, mais... c'est toujours un plus dans ma vie. J'ai pas d'ambition et de. C'est pas grave si j'en fais pas de cinéma.
Parce que quand on rêve de cinéma, ça veut dire aussi rêver de gloire quand même un peu, non ?
Alors moi, c'est marrant parce que je rêvais de gloire, pourtant. Mais non, ah ouais, je savais que ça passerait... Enfin, non,
Vous avez rêvé de gloire?
Ah oui, oui. Ouais, j'avais... j'avais dans ma chambre, j'avais un espèce de... Vous savez, les almanachs, là, les espèces de trucs où il y a une page par jour.
Un agenda.
Et il y a souvent la saint du jour.
Ouais.
Et il y a des gros anneaux et tu tournes les pages. Bon, bref. Et donc, à chaque fois, il y a marqué saint. Voilà, c'est quand, la Saint-Rebecca?
Je crois qu'il n'y en a pas.
Ah bon? Franchement. Elle est déjà qu'elle est mal branlée, mon anecdote. Alors là, si vous ne venez pas. Bon, disons que le...
Saint-Vincent, allez.
Hein, la Saint-Vincent, c'est... Ouais. Je ne sais même plus quand c'est. C'est en janvier. La Saint-Vincent, là, je faisais un petit autographe pour Vincent. Et alors, si c'était la Saint-Michel, je faisais un autographe pour Michel. Et, ça, et je faisais comme si je signais plein d'autographes les uns à la suite des autres. Donc oui, je rêvais de gloire à fond les ballons. Ouais. Puis aussi, quand j'étais dans les toilettes, petit, je répondais à des interviews imaginaires.
Oh, racontez-moi ça.
Ben, je m'asseyais sur les toilettes. Ouais, ça, j'ai pas besoin de me...
Mais,
hein,
voilà. Mais vous répondiez à quelle question?
À voix haute. Je réponds, j'avais l'impression que j'étais entré dans un petit un cabinet de journaliste, comme si j'étais à la radio, et j'imaginais qu'on me disait « Alors, ce spectacle, vous allez le tourner ben, tout en France ?» Je disais « Oui, donc la première sera à Clermont-Ferrand et tout ça. » Et puis au bout d'un moment, ma mère faisait « Toc, toc, à table !» Et j'avais un peu honte et j'allais manger.
La peur est venue à quel moment?
La peur de ne pas y arriver, elle m'a tenu jusqu'au coup de fil de Laurent Ruquier qui disait « Ouais, d'accord, je veux bien produire le spectacle. » Là, je me suis vraiment dit « Bon, ben là, ça va peut-être aller. » Donc maintenant, la peur qu'il y a, c'est la peur de décevoir ou d'être à côté de la plaque ou de plus être en phase avec...
Comment ça, être à côté de la plaque?
Bah, pour être humoriste, comique, quand même, il faut avoir une certaine sensation de ce qui se passe, de l'époque. Ouais, voilà, si tu te mets à faire des blagues qui n'ont aucune acuité sur ce qui se passe, vraiment ce qui est un peu frémissant, sensible, tout ça. Voilà.
Alors, il y a l'écriture des spectacles, il y a le théâtre, et puis il y a aussi des journaux intimes que vous avez adaptés. Je dis des journaux intimes, parce que vous avez adapté un journal intime d'Hervé Guibert, et vous avez adapté l'année dernière les journaux intimes de Jean-Luc Lagarce. Ça veut donc dire que vous êtes lecteur de journaux intimes. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans?
Moi, je trouve que quand on aime quelqu'un, un auteur, par exemple, c'est toujours dur de se sentir loin de lui. En fait, je veux savoir qui sont les gens. C'est ça qui m'intéresse. J'adore la fiction, j'adore qu'on me raconte des histoires, mais par exemple, quand je vais voir quelqu'un sur scène, dans un seul en scène, je veux dire, j'ai besoin que la personne me dise qui elle est, sans trop d'artifice, sans trop me feinter, sans trop... Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, quelqu'un qui se présente, qui dit qui il est, ça me bouleverse.
Extrait du journal de Jean-Luc Lagarce, le 11 juin 1990 à Berlin. Wolfgang. Déjà, qu'on puisse rencontrer des hommes qui s'appellent Wolfgang justifie qu'on vive ici. Mais celui-là est joli. Non, pas joli, sexy. Petit, musclé, avec des cuisses de footballeur, comme si je savais, et un visage superbe. Sexy, c'est le mot. Il y a quelques mois, Vincent de Diem a adapté et interprété le journal de Jean-Luc Lagarce, dramaturge français le plus joué au monde. Lagarce par de Diem, ça donne un spectacle intitulé « Il ne m'est jamais rien arrivé ».
Ce qui est vraiment bouleversant pour moi, c'est que c'est une vie... très pleine de spectacles, de théâtre, de culture, pleine d'aventures sexuelles, pleine de cul, de rencontres, de nuits, d'alcool. Et pourtant, c'est une vie extraordinairement solitaire. C'est aussi la sensation et même le pressentiment d'une vie qui sera courte, parce qu'en fait, dès 20 ans, il dit « j'ai la sensation que je vais mourir vite d'une maladie terrible », alors que le sida n'existe même pas encore. Donc ouais, ça me bouleverse.
Mais d'ailleurs, Guibert comme Lagarce sont morts l'un et l'autre du sida. Ce sont deux journaux que vous avez adaptés. Tout ça, c'est l'incarnation d'une époque que vous n'avez pas vécue, puisque vous vous êtes né à la fin des années 80.
Bah, je pense aussi, évidemment, je pense que ce qui me touche aussi, c'est que moi, on ne peut pas être homosexuel et quelque part heureux sans ignorer qu'on vient de cette génération aussi. Enfin, qu'avant nous, avant la mienne, il y a eu une génération qui s'est battue pour ses droits et pour sa survie. Et qui a été une population absolument... une des premières, avec les toxicos, une population décimée, quoi, par ce virus.
C'est aussi, au fond, dire nous sommes héritiers de cette génération-là.
Oui, oui, en tout cas. De toute façon... il y a un peu deux catégories de gens, j'ai l'impression. Il y a les gens qui n'ont pas beaucoup de curiosité pour d'où ils viennent, pour ce qui s'est passé avant, pour se connaître de qui ils sont les enfants. Et il y a d'autres gens comme moi qui sont moins tournés vers ce qui va se passer, ce qu'on va devenir, que vers d'où on vient, ce qui s'est passé avant. Moi, je suis vraiment tout le temps en lien avec les archives, avec... je sais pas pourquoi. Si, j'ai une idée, mais bon, bref.
Mais vous la direz pas.
Non, bah, j'en sais rien, en fait. Non, mais c'est vrai. J'imagine que comme j'ignore, il y a quand même un grand flou artistique au tout début, à la naissance, comme je sais pas, je suis né sous X et tout ça, machin. Je suis toujours sensible à ce qui s'est passé avant, nous.
Vous parliez du fait d'être homosexuel aujourd'hui et d'être héritier de cette histoire. Muriel Robin a pris la parole concernant le fait que son homosexualité avait été un frein, notamment pour son parcours dans le cinéma. Est-ce que vous avez pensé à ça ?
Est-ce que j'y ai pensé ? Oui. Enfin, j'y ai pensé trop tard, moi. J'y ai pensé, en fait, après mon premier spectacle. Comme dans mon premier spectacle, je disais que j'étais homo et que je parlais de mon ex, Florent, et tout ça, machin. Je me suis dit, merde, putain, si j'avais su, j'aurais dû brouiller, c'est trop tard. Mais ça m'a bien arrangé que ça soit trop tard, parce que comme ça, ça m'a donné... j'avais plus d'excuses et voilà, j'avais plus qu'à être sincère et à m'en foutre de cette question-là.
Pourquoi vous vous êtes dit si j'avais su ?
En fait, j'ai plein... Parce qu'il y a des exemples de gens qui ne le disent pas et qu'en fait, la question, ouais, elle se pose aujourd'hui. On adore que des hétéros jouent des homosexuels. On trouve que c'est exotique, marrant, intéressant, performant. En revanche, distribuer un homo dans le rôle d'un hétéro, ça pose plus de questions. Donc, je m'étais dit, ah ouais, peut-être ça vaudrait le coup d'être un peu plus ambigu. Parce que je voyais tout le monde le faire aussi, voilà. Mais
donc est-ce qu'il vous est arrivé de jouer l'ambiguïté ?
Ben non, parce qu'en fait...
De vous surveiller ou de se dire...
Non, parce qu'en fait, j'avais tout dit dans mon premier spectacle et que du coup, j'étais débarrassé de cette question-là. Par contre, là, après-demain, je commence un tournage dans les Ardennes avec Alexis Mananti et La Roumf, un premier film d'une réalisatrice qui s'appelle Sarah Arnold, dans lequel elle me fait jouer un hétéro un peu couillon, un peu viril, un peu bas de plafond, un peu con, un peu macho. En fait, je me suis dit, bon, je dis d'accord à ce rôle-là, mais je veux pas justement me surveiller, parce que ça, c'est des trucs que j'ai tellement qu'au bout d'un moment, on veut plus le faire, quoi. Je sais pas comment dire, parce que ça m'est arrivé à l'internat, adolescent. J'étais dans un internat de footballeurs, de handballeurs, et ça, j'étais le seul option théâtre de mon lycée, donc on m'avait mis dans un internat de sportifs, et j'essayais de pas être trop l'homo de service, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que j'avais peur, en fait. Et après, une fois que t'es débarrassé, une fois que t'assumes ton homosexualité, que t'es débarrassé de ces trucs-là, tu veux plus avoir affaire avec ces questions-là. Tu veux plus te surveiller, tu veux plus te poser la question de est-ce que t'es suffisamment viril, tout ça, machin. Ça, c'est des trucs, ça fout ça, tout de suite, ça. Non, c'est fini, quoi. Get down inside the team, be right here, right now. That's where we want you to be. Be right here. Right here, right now.
David Walters plus Kezia Jules égale le morceau qui t'est coulé. No one knows how it all flows.
pas qu'avant si yo. Nous parlons yo, yo les mettez nous en bas d'eau. Yo les mettez nous en bas. Yo les mettez nous en bas d'eau. Yo les mettez nous en bas. Just like memory. Yo les mettez nous en bas. Just like life, yeah. Yo les mettez nous en bas d'eau. Just like water. Yo les mettez nous en bas. Just like time, yeah. Yo les mettez nous en bas d'eau. Où peut crier maman de l'eau? Et que fait Ayan Bao? Ayan Bao.
Il faut que je commence par moi.
Vous êtes comme vous.
Ah oui, je me souviens. Rebecca Manzoni, Vincent Dedienne, c'est Totémique sur France Inter.
J'ai joué un petit peu.
J'ai joué. Le côté conclusion, ça s'est senti ou pas?
Ouais.
Ouais.
Carrément. Vous aimez faire les voix off?
Ah ouais, j'aimerais bien faire plein de trucs, ouais, à la radio. Ouais. Même les voix off, les documentaires et tout ça, j'adore.
On fait la carte blanche ici ou...
Ah bah n'importe. Ou là-bas.
Ouais.
Comme ça, on a un peu...
Peut-être que la lessive est finie.
Non, pas du tout. Elle est pas du tout finie.
Ah bah on va...
Elle est pire que tout. Bah non, on va rester là. Hein.
Bah oui. Bah...
Alors, la carte blanche, il faut que je la retrouve, elle est là.
J'explique ce que c'est?
Oui.
Oui. Hein. Bah, c'est une lettre écrite le 24 octobre 86 par Bernard Blier, qui écrit donc à Thierry Leluron, parce qu'il vient d'apprendre que Thierry Leluron est malade. Voilà. Et il lui a écrit ce petit mot-là, alors qu'il ne le connaît pas, il lui a fait parvenir un petit mot d'encouragement. Et je crois que je l'ai trouvé, ce petit mot, dans une biographie de Thierry Leluron. Et donc, le 24 octobre 86, Bernard Blier écrit « Cher monsieur et ami, ma lettre va sans doute vous sembler bizarre, elle ne l'est pas, croyez-moi. Il s'agit simplement d'un mouvement spontané de sympathie et de cordial encouragement. Je devine que vous devez vous poser des questions. Sachez que vous avez des spectateurs qui sont des amis. Nous nous sommes rencontrés 3 ou 4 fois sans jamais... comme on dit, nous connaître ou nous fréquenter, cela ne fait rien. Depuis le début, vous faites partie de mon univers. J'aime trop le spectacle pour ne pas avoir envie de passer un moment avec vous. Dès que vous le pourrez, dites-moi quand et où je pourrai vous visiter. Vous êtes dans les meilleures mains du monde et j'ai connu des cas analogues aux vôtres qui sont sortis indemnes et totalement guéris. Gardez le moral et vous allez très vite vous tirer de cette mauvaise alerte. Je pense déjà au triomphe que sera votre rentrée. Vous ne devez penser qu'à cette soirée, suivie de beaucoup d'autres, et aux joies que vous donnerez à ceux qui, comme moi, vous attendent affectueusement. Bernard Blier. Classe.
Sachant que Thierry Leluron est mort du sida.
Ouais. C'est un exemple de gentillesse ou de générosité un peu gratuite quand même. Il avait rien. Enfin, voilà, c'est quand même un mouvement, un élan amical d'affection que je trouve très beau de la part de ce gros bonhomme là, Bernard Blier, qu'on n'imagine pas être, je sais pas, être un spectateur ami et attentif de Thierry Leluron, quoi. Voilà. C'est un peu comme la scène du goût des autres, quoi. C'est
derrière les apparences.
Ouais, exactement.
La toute dernière séquence, c'est un Polaroid.
Ah, il est énorme, ce Polaroid. Mmh.
Ouais. On peut faire une photo?
Oui.
On l'a fait où?
Ah, on l'a fait à Paris, je veux dire. Ça reste dans... Là. Dans oui. Un rayon de 500 mètres.
Ah bah, oui, oui, même de 10 ou... Ouais.
Ben, on l'a fait, je crois, mais voilà. On peut le faire avec l'hippopotame dans le... derrière nous.
D'accord.
Ah, mais que de moi?
Oui.
Ah, d'accord, j'ai cru tous les deux.
Non, non,
c'est... Ok, d'accord.
Non, non.
Ah, bah, voilà.
Allez-y, prenez-la.
Je la prends?
Ouais.
Faut la secouer?
Non, je crois pas.
Non?
Ok. Vous apparaissez?
Ah, voilà. Eh ben, il est content, dis donc. Vraiment, vraiment, c'est vraiment un imbécile heureux.
Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous auriez aimé ressembler, vous?
Physiquement?
Ouais.
Bah oui, Louis Garrel. Louis Garrel, ouais, ouais, non, j'aurais bien aimé être un grand échalas comme ça, chevelu. Je voudrais pouvoir passer la main dans mes cheveux, moi, sans qu'elle a se bloquer. Vous savez, comme qu'on confond quand même très souvent avec Guillaume Gallienne. Mmh. Ah, c'est juste ce que ça vous fait.
Attendez, on l'a refait.
Ouais. Vous savez, comme qu'on confond très souvent avec Guillaume Gallienne.
C'est pas vrai.
Voilà, merci. Ouais. Bah oui, c'est fou, ça me paraît dingue.
Ça vous va?
Ouais, super. Attendez, je vais la prendre en... Je vais la prendre en photo.
Ah, ok.
Je vais la prendre en photo là-dedans.
D'accord.
Hop là.
Merci beaucoup, Vincent Dedienne.
Merci, Rebecca Manzoni.
Un lendemain soir de gala, c'est le titre du disque de Vincent Dedienne. Il en fait un spectacle avec chansons et textes. La tournée commence le 6 novembre au Majestic de Montreux. Et à partir du 8 février, Vincent Dedienne sera sur la scène du Théâtre de l'Atelier pour « Il ne m'est jamais rien arrivé », soit l'adaptation du journal de Jean-Luc Lagarce. Stéphane Le Guenec réalise Totemic et c'était avec Mathias Alléon ce matin. L'équipe de Totemic, c'est aussi Ilinka Negulesco, Perrine Malinge et JB Audibert. La semaine prochaine, je vous propose un rendez-vous avec Vanessa Paradis. Et en ce vendredi 3 octobre, j'aimerais vous parler du prix BD Fnac France Inter parce que nous avons besoin de vous pour sélectionner les nommés. Alors pour faire partie du jury, vous avez la possibilité de déposer votre candidature sur le site prixbdfranceinter.com et vous avez jusqu'au mardi 7 octobre. Je vous redonne le site prixbdfranceinter.com.